Bonjour frères et sœurs. Nous avons chanté, et on a pu faire à notre Dieu, mais c'est vraiment ça, ces chants-là, ça dévoile ce qu'il y a dans le cœur des gens qui ont composé ces chants vraiment. Puis c'est inspiré, comme dit l'apôtre Paul, par la grâce et par l'amour de Dieu que ces frères et sœurs ont composé ces chants-là. Un des mes chants préférés qu'on a écouté aujourd'hui, c'était chaque instant et chaque heure qui passe, dit. En Jésus, je peux me confier, cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. C'était vraiment des belles paroles. Et si l'apôtre Paul avait connu ces chants-là, je suis sûr qu'il serait en train de chanter en prison, vous vous rappelez? On a étudié ce passage-là, il était en prison, enchaîné. Puis chanter, il dit des cantiques, des hymnes, des psaumes. Sûrement, s'il connaissait ces chants, il aurait pu le chanter chaque instant, que chaque jour qui passe, c'est toi qui es auprès de moi. Ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins, pas juste besoins matériels, aux besoins de ma foi. C'est des très beaux chants qui nous inspirent de louer Dieu, de le remercier. Et nous pouvons voir aussi dans sa parole la fidélité de Dieu. Puis on est en train d'étudier justement la vie, un peu les derniers passages des Actes des apôtres où Luc nous raconte ce que Paul a vécu avant de se rendre à ses longs voyages à Rome pour encore témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, on est en train de voir ces passages et on voit que l'apôtre Paul, il a ce désir-là au chapitre 19, justement. Il y a quelques semaines, c'est moi qui prêchais sur chapitre 19, là, où il y a eu l'émeute à Éphèse. Et puis, là où Paul, après, il avait désiré dans son cœur, c'est sûr que guidé par le Saint-Esprit, de vouloir aller à Jérusalem. Et après, à Rome, il y avait ça dans son cœur. De toute façon, Dieu l'avait déjà dit qu'il allait prêcher cet évangile, comme on l'a vu la semaine passée, aux païens, et partout. Et donc, Paul est en train de faire la volonté de Dieu, mais il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver, comment il va se rendre à Rome. Et il ne sait pas les détails. Il parle aussi que le Saint-Esprit lui annonce des choses qu'il va vivre, mais il ne sait pas les détails. Donc, il doit chercher la volonté de Dieu en ce qui concerne et la façon comment il va peut-être même prier Dieu pour qu'il l'aide à pouvoir répondre à tous ces événements. C'est long vraiment le vouloir de Dieu. Donc, on est en train d'étudier ce passage-là. Et aujourd'hui, nous allons étudier le passage Acte 22. Si vous avez déjà votre Bible, Acte 22, verset 30, c'est-à-dire le dernier verset, juste pour introduire ce que nous allons étudier dans le chapitre 23, versets 1 à 11. Donc, 12 versets que nous allons étudier en ce matin. Donc, dans le chapitre 21 et 22, Luc nous raconte comment les soldats romains, parce qu'on voit le chemin de Paul, il vient de finir son troisième voyage, donc il ne sait pas qu'il y a un quatrième voyage et qu'il attend, mais cette fois-là, pour aller jusqu'à Rome. Et donc, il a fini son troisième voyage et il va à Jérusalem. Et Luc nous raconte dans ces passages-là comment les soldats romains, avec les tribuns à leur tête, sont intervenus pour arrêter la foule qui était en délire. Ils voulaient vraiment le tuer et puis pour cesser aussi l'émeute. Donc, le tribun doit intervenir pour ça. Et nous avons vu le plaidoyer, la défense de l'apôtre Paul en ce qui concerne son témoignage aussi. Et donc, nous avons vu le plaidoyer la semaine passée. Et trois choses devant le tribun. Et le plaidoyer de Paul devant les Juifs, devant le peuple. Il se trouve devant le peuple. Il commence à parler en langue hébraïque. Et c'est sûr que peut-être le tribun n'a rien compris ce qui a été dit, mais il a donné son témoignage, comment le Seigneur lui est apparu chemin à Damas. Et il fait son plaidoyer aussi, défendre aussi pourquoi. Et il se trouve maintenant en prison pourquoi il est détenu et quelles sont les accusations que ce peuple est en train de lui attribuer. Aussi, plaidoyer devant les soldats, on voit vers la fin du chapitre 22. Et le passage que nous allons étudier aujourd'hui fait suite vraiment à ces événements racontés à la fin du chapitre 22. Donc, ce tribun-là se rend compte que Paul est un citoyen romain. Donc, on l'a vu la semaine passée, et il a très peur parce qu'il voulait le punir. Et donc, il apprend cela et sachant qu'il était illégal de torturer un citoyen, et la punition était grave, donc il a peur, il ne peut pas le libérer. Donc, il veut il décide de savoir. Pourquoi il est accusé. Et donc, c'est pourquoi il décide de lui permettre d'avoir un procès équitable devant les Juifs et devant aussi le Sanhédrin. Donc, c'est la première fois que l'apôtre Paul se trouve devant le Sanhédrin pour s'expliquer. Et en fait, ce passage-là, Luc nous dit, c'est parce que le tribun voulait savoir de quoi on l'accusait. Et Paul aussi, peut-être, est en train de prier pour que Dieu lui montre comment il va se rendre à Jérusalem. Est-ce qu'il faut qu'il se défend devant les Juifs pour qu'il soit libéré et se rendre à Rome? Ou quelle est la façon comment Dieu va permettre qu'il puisse se rendre à Rome? C'est sûr, le plus logique des choses, c'est qu'il soit libéré et qu'il prend... Il prend l'avion, j'allais dire, mais il prend le bateau et s'en allait à Rome, parce que c'est quand même assez loin. Et donc, mais il ne le sait pas encore. Il y a bien sûr un prophète, comme on a vu il y a quelques semaines, qui prophétise la façon comment Paul va être lié à Jérusalem. Mais est-ce qu'il va continuer à être lié jusqu'à Rome? C'est ça qu'il ne sait pas. Et le tribun ici veut savoir, il y a beaucoup de questions, le tribun veut savoir pourquoi il est accusé. Donc c'est ça qu'on va étudier, ces procès aujourd'hui dans notre étude. Donc encore là. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible, ouvrir votre tablette, mettre votre mot de passe et voir votre écran et votre Bible dans chapitre Actes 22, chapitre 22, verset 30. Et puis après, on va continuer chapitre 23, du verset 1 à 11. Donc, je commence par la fin du chapitre 22. Le lendemain, voulant savoir au juste de quoi les Juifs l'accusaient, c'est-à-dire le tribun, il le relâcha et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Et puis, il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Là, on est rendu à Actes 23, chapitre 23, verset 11. Le regard fixé sur le Sanhédrin, Paul dit, « Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi tu ordonnes de me frapper ?» Ce qui était là à dire, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin, « Frère, moi je suis pharisien, fils des pharisiens, et c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les Sadducéens, et la multitude se divisa. Les Sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » Et si un esprit ou l'ange lui avait parlé, comme la dispute allait croissant, les tribuns craignaient que Paul ne soit mis en pièces pour eux. Il donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit, « prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage à Rome. C'est des très belles paroles du Seigneur envers Paul, son serviteur. Il dit, prends courage, parce que de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu le feras aussi à Rome. Ce passage fait vraiment suite au chapitre 22. Et en ce qui concerne le témoignage de l'apôtre Paul à Jérusalem, et c'est là qu'on prend trois aspects. Si on prend en compte le chapitre 21 et 22 aussi, trois aspects en ce qui concerne le témoignage de l'apôtre Paul. Un, sa conversion, nous avons vu la semaine passée, et qu'il témoigne devant le peuple juif. Et en ce qui concerne sa conversion, comment il a été converti, puis on voit comment le Seigneur lui a parlé. Mais aujourd'hui, on va continuer avec ça. Et puis, en ce qui concerne son témoignage, on va voir ce que Paul parle sur sa conduite. Et en troisième lieu, son espérance, c'est-à-dire la résurrection. Et donc, on a vu la semaine passée ça, au niveau de sa conversion. Puis aujourd'hui, ces deux aspects importants au niveau de son témoignage, c'est sa conduite et son espérance. Il est devant le Sanhédrin. Et donc, le verset 30, chapitre 22, on l'a fini que le tribun non seulement voulait un procès équitable, mais il voulait savoir de quoi Paul était accusé. Donc, il fait ôter ses liens, donc il est libéré. Et je ne pense pas qu'il a été libéré, donc en donnant sa liberté, peut-être ils ont juste enlevé ses liens. Et puis, le tribun donne l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins, vraiment, de se réunir et faisant descendre Paul en le plaçant au milieu d'eux, approximativement. Et il y avait 50 personnes, à peu près, là, qui étaient réunies. Donc, ça doit être intimidant pour l'apôtre Paul, voir tous ces gens-là. Et puis, lui était au milieu, là. Et puis, ça doit être intimidant pour lui de pouvoir se placer et donner raison de sa foi et parler en ce qui concerne sa conduite. Donc, le tribun consulte les plus hautes instances. Et donc, on avait dit, c'est la première fois qu'il se trouve devant le Sanhédrin. Cette audience n'a rien d'un véritable procès, puisque Paul ne fait l'objet d'aucune accusation non plus formelle et que personne ne témoigne contre lui. C'est vraiment le tribun qui a proposé, qui a fait en sorte que cette réunion puisse avoir lieu. Cette réunion ne semble pas non plus se dérouler dans le lieu habituel que les Sanhédrin se réunissaient. Normalement, ils le faisaient ça à côté du temple, soit dans l'air du temple. Donc, Luc nous dit que le tribun fait descendre Paul. Et il le plaça au milieu du Sanhédrin, et quelque part, peut-être en dehors de la forteresse, et de manière qu'il puisse permettre aux troupes romaines d'aller le chercher au cas où il y aurait un problème. Là. Donc, on voit ça, on a lu ça tantôt dans le verset 10, chapitre 23. Donc, il faut quand même préciser que le Sanhédrin, c'est un synonyme du mot grec « concile », il constitue le tribunal religieux des Juifs d'Israël sous l'occupation romaine. Donc, il a tout pouvoir décisionnel en ce qui concerne la loi, un problème, un litige en ce qui concerne la loi. Il avait un pouvoir décisionnel. Et le Sanhédrin a eu aussi le pouvoir d'infliger une peine pour toute violation de la loi juive. Tandis que de manière civile, il n'avait pas de pouvoir. Le pouvoir était limité. Il ne peut infliger la peine capitale. On vous rappelait que Jésus est devant le Sanhédrin. Et puis, Pilate demande pourquoi vous l'amenez. Donc, s'il n'était pas un malfaiteur, on ne pourra pas l'amener. Puis, on peut non plus mettre à mort personne. Donc, ça n'était pas permis. C'est pour ça aussi que Jésus est devant le Sanhédrin. Donc, on voit ça dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 18. Et, tandis que le gouverneur romain, tel que Pilate, Félix, Festus, qu'on va voir plus tard dans cette histoire-là encore, là, ont le pouvoir de faire ça. Et les dirigeants nommés comme Hérode aussi dans l'histoire. il exerce son pouvoir politique, il peut donner même la peine de mort. Donc le Sanhédrin se compose de trois groupes majeurs. Et celui des principaux sacrificateurs, ça, on l'a vu dans notre étude aussi jusqu'à aujourd'hui de Actes des Apôtres. Et un groupe des principaux sacrificateurs comprenant le président du Sanhédrin, des présidents antérieurs, sont mentionnés aussi dans le chapitre 4 de Actes, comme Anne. Maintenant, c'est Ananias. Et normalement, le président de cette réunion au Sanhédrin, c'était supposément le sacrificateur, le principal sacrificateur, mais je pense que ce n'est pas le cas à ce moment-là. Je pense que c'est les tribuns qui peut-être organisent ou dirigent cette réunion. Et un autre groupe qui formait le Sanhédrin, c'était aussi la famille des principaux sacrificateurs, ça on le voit dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres. Celui des scribes aussi, qu'on voit à la fin de notre passage aussi, dont la majorité sont choisis parmi les pharisiens. Ces scribes-là sont experts dans la matière de la loi juive. Donc le Sanhédrin est composé aussi des deux principaux partis religieux en parlant de ça. Ce sont les pharisiens. Et ce sont les Sadducéens. Et Luc prend la peine aussi de nous expliquer en quoi ils croyaient, ces Sadducéens. Ces Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à cette espérance-là de la résurrection. Ils ne croyaient pas du tout. Je ne sais pas comment ils faisaient là, pour être en accord. Oui, peut-être qu'ils croyaient à il me semble qu'ils croyaient à la loi. Mais par contre, les pharisiens, oui, ils croyaient à la résurrection, à l'esprit. Donc, il s'agit ici de la cinquième et dernière fois que le Sanhédrin est convoqué pour évaluer les griefs en rapport à la foi chrétienne. Donc, c'est la cinquième fois. Et ça, je ne parle pas juste du livre des Actes des Apôtres. C'est en général, je pense, au niveau aussi des évangiles, même les lettres. C'est la cinquième fois qu'il est mentionné, c'est-à-dire une réunion ici au Sanhédrin. La première fois, on peut le voir dans les évangiles, que Jean, le Seigneur Jésus est devant le Sanhédrin. Donc, on voit ça dans Marc, chapitre 14, vers la fin. Le deuxième concernait Pierre et Jean, dans Actes 4, 5, à 22. La troisième a suivi l'arrestation de tous les apôtres, dans Actes 5. La quatrième était le procès d'Étienne, dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres. Il se trouve devant le Sanhédrin aussi, Étienne. Il est mis à mort. Donc, dans les versets suivants, et je vous propose, dans le verset 1 à 5, on va voir en ce qui concerne la conduite de Paul. Paul témoigne de sa conduite devant le Sanhédrin. Donc, Luc n'a probablement pas assisté à cette réunion, à cette séance. Et par contre, il nous fait un résumé. Et il ne mentionne pas les paroles traditionnelles, mettons, du président qui ouvre la session. Les tribuns, peut-être, il l'a fait. Donc, Paul s'adresse d'abord à eux en disant « homme, frère », alors que la manière habituelle de s'adresser au Sanhédrin était utilisant des mots comme, on lit dans Actes 7, « chef du peuple et ancien d'Israël ». Dans Actes 4, Pierre se dirige comme ça au Sanhédrin. Chef du peuple et ancien d'Israël. Ou encore homme, frère et père, que Étienne mentionne au début du chapitre 7. C'était la façon, mais par contre, Paul s'adresse à eux comme homme, frère. Paul est lié étroitement au Sanhédrin, donc il connaissait probablement plusieurs membres encore qui étaient vivants encore. Pour avoir déjà été, il faisait partie de peut-être ce Sanhédrin-là. Et on peut lire ça dans Actes 26 plus tard, quand il donne, je pense, son témoignage devant le roi Agrippa. Il sait peu également que certains d'entre eux avaient étudié peut-être auprès de Paul, quand on a mentionné la semaine passée avec Gamaliel, qui était un expert, qui a été celui qui a formé, on peut dire, Paul, dans la loi. Mais on lit dans le verset 1, Paul, le regard fixé, il dit au Sanhédrin, dit « homme, frère ». C'est en toute bonne conscience. Il dit « en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il mentionne Paul à ses sacrificateurs devant ce Sanhédrin. Il dit, je me suis conduit de toute bonne conscience, je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Bien sûr, on parle vraiment de sa conversion plus tard dans le chapitre 26. On va voir vraiment que Paul, il parle du jour, et en utilisant presque les mêmes paroles, il parle depuis le jour qu'il s'est converti. Mais on connaît Paul, on connaît ses lettres, on connaît ce qu'il a écrit, et puis il était toujours été motivé par le désir de plaire à Dieu. Et il écrit à Timothée dans le chapitre 1, il dit, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Donc c'était vraiment le vouloir toujours de Paul de chercher la volonté de Dieu dans sa vie. Par cette affirmation, Paul met les membres du Sanhédrin dans la défensive, car en s'opposant à lui, et si les gens s'opposent à lui, donc et qui agit en obéissant à Dieu, en fait, il s'oppose aussi à Dieu même. Donc Paul n'éprouve aucune culpabilité en disant ça. Donc c'est sûr que ils l'ont mal pris ces Juifs là. Donc il est en train de dire je suis innocent et pour tout ce que vous êtes en train de m'accuser. Et malgré ces accusations là, il dit il éprouve aucune culpabilité devant le Sanhédrin. Donc, dans les prochains versets de 2 à 5, on voit que le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Ananias ordonne aux assistants de frapper Paul sur la bouche. Je ne sais pas si Paul était en train encore de parler, mais c'est sûr que ça, des fois, quand ça nous prend par surprise, ça doit être quelque chose. Ça n'a pas dû être juste une petite, comment tu peux dire, là, une petite claque, là. Non, c'était vraiment fort, peut-être que. Et on le voit aussi dans la réaction de l'apôtre Paul. Paul réplique. Et il dit que Dieu frappera Ananias à cause de son hypocrisie. Et les assistants aussi lui font observer qu'il outrage ou qu'il insulte le grand prêtre ou le sacrificateur. Et Paul déclare qu'il n'avait pas vu que c'était vraiment le sacrificateur à qui il était en train de s'adresser. Donc la réaction d'Ananias concorde avec ce qu'on sait de lui. C'est sûr qu'Ananias, ce n'est pas le même Ananias qu'on lit, celui qui a baptisé Paul et qui lui a dit que Dieu lui avait donné un ordre d'aller prêcher l'évangile aux païens. Ce n'est pas du même Ananias qu'on parle maintenant. Mais on sait par l'histoire du premier siècle, ceux qui ont écrit dans le premier siècle de la vie et de l'Église, on sait que cet homme-là était insolent, était quelqu'un de colérique, et impie et cupide. Donc, et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Muraille blanchie. Cette expression est signifiant que c'était en fait un hypocrite. Comme le prophète Ézéchiel 13:10, on peut peut-être penser que Paul pense à cette fois où le prophète Ézéchiel exhorte ses sacrificateurs à chercher Dieu et à faire sa volonté, mais ils ne faisaient pas, ils étaient hypocrites devant Dieu. Il s'exprime de cette façon dans Ézéchiel 13:10. Il dit, ces choses arriveront parce qu'ils s'égarent, il égare mon peuple, en parlant des sacrificateurs, en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils le couvrent. Eux, c'est-à-dire les sacrificateurs, eux, ils les couvrent de plâtre. Et du plâtre, c'est sûr, c'est blanc, c'est blanchi. Donc peut-être c'est en pensant à cette expression-là que Paul dit à Ananias, muraille blanchie. Le Seigneur Jésus utilise une expression semblable. Malheur à vous, il dit, quand il est en train de parler de scribes et pharisiens, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Dans Matthieu 23, hypocrite, il dit, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Donc peut-être Paul aussi pense à cette expression du Seigneur Jésus. Mais Ananias avait en fait l'apparence d'un ministre, en tout cas il avait ce titre-là, de justice. Mais il n'était pas ce qu'il paraissait, quant à la loi juive, des droits de l'accusé étaient soigneusement protégés, on voit dans la loi juive, là. Donc il n'agit pas selon cette loi-là. On peut lire dans Lévitique 19:15, il dit « Vous ne commettrez pas d'injustice dans le jugement. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas des considérations pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. » En fait, c'est avec raison que peut-être Paul pensait aussi à ce qui disait la loi. Et avec raison, Paul mentionne « Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Je ne suis pas en train de justifier aussi l'expression de l'apôtre Paul, mais par contre, ce qui était près de lui, lui dire « T'insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Donc, comment réconcilier les paroles dures de Paul prononcées à l'égard de ce sacrificateur-là, quand il déclare aux Corinthiens aussi, dans Corinthiens chapitre 4, 12, quand il dit « Injuriés, nous bénissons, » dit l'apôtre Paul. Ou aussi, on peut se rappeler, parce qu'on a lu la semaine passée aussi, le passage que Richard mentionnait aussi, en Tite 3, 1 à 2, quand il dit « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, » il dit, « d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne me dire de personne et d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Donc, comment concilier ces exhortations de Paul? On ne peut pas éviter de faire non plus le parallèle avec ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus et qui injuriait l'apôtre Pierre, et mentionne dans sa lettre, chapitre 2, 23, il dit qu'injurier, je pense qu'on a même lu tantôt, rendait point d'injure et maltraité ne faisait point de menace. Par contre, Paul avait cet exemple du Seigneur Jésus. Mais lorsqu'on l'accuse de violer la loi aussi, dans le cas de Jésus, et il s'est contenté juste de répondre à Jésus, il dit, si j'ai mal parlé, explique-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Pourquoi me frappes-tu? C'est différent un peu la situation. Peut-être il y a quand même des parallèles de la façon comment Jésus a été mené, mais on voit que les réactions sont un peu différentes. Jésus n'insulte pas ne profère ce genre de paroles envers le sacrificateur, mais il dit, si j'ai mal parlé, explique-moi pourquoi j'ai dit ce mal, qu'est-ce que j'ai dit de mal. Donc, Paul aurait pu dire aussi ce qu'il mentionnait aussi, toi qui est conforme à la loi, tu devrais agir selon la loi. Il aurait pu dire ça, mais ce n'est pas le cas dans ces passages. Donc, on voit dans l'attitude de Paul après qu'il se rend compte peut-être qu'il a commis une erreur de s'exprimer de la sorte envers le souverain sacrificateur. Il répond, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit. Et puis, en plus, il cite un passage de Exode 22-28, tu ne parleras pas mal du chef du peuple. En quelque sorte, Dieu, Paul est en train de se rétracter, de dire qu'il a vraiment usé des paroles peut-être trop fortes envers le souverain sacrificateur. Plusieurs commentateurs pensent autrement, et aussi ils pensent qu'il est en train de parler de façon ironique, et même il y en a des commentateurs qui arrivent jusqu'à dire que Paul est en train de mentir en disant « je ne savais pas qu'il était le souverain sacrificateur, peut-être il ne l'a pas vu, peut-être il avait des problèmes de vue, et puis... C'est sûr, comme je dis au début, la réunion n'était pas dirigée par le souverain sacrificateur. C'est peut-être le tribun qui était là. Et donc, Paul, peut-être, il ne pouvait pas reconnaître le souverain sacrificateur. Sachant que c'est plus Anne qu'on voit dans Acte 4 qui est maintenant le souverain sacrificateur, mais c'est Ananias. Donc, peut-être Paul ne le connaissait pas, ou peut-être il n'a pas reconnu tout simplement. Je pense que Paul dit la vérité en ce qui concerne qu'il ne savait pas qu'il était le souverain sacrificateur. Donc, on voit sa réaction. Et puis, il cite même un verset pour dire qu'il reconnaît que c'était inapproprié. Il prend même la peine de citer le passage en question pour citer le respect vers la parole, vers la loi, et la réaction de Paul est conforme en fait, à sa bonne conduite qu'il est en train de mentionner au début. Il est conforme à ce qui est, à sa bonne conduite. Il a commis peut-être une erreur, oui, mais il le reconnaît. Et puis on voit cet exemple de l'apôtre Paul. En fait, et ce que Paul cherche, c'est de faire la volonté de Dieu et vraiment obéir à Dieu. Est-ce que Paul était parfait? Il n'était pas parfait. Le seul qui était parfait sans péché, c'était qui? Jésus, on l'a lu tantôt. Lui, il n'avait pas de péché. Mais Paul, malheureusement, et peut-être il a usé une parole trop forte envers le... Par contre, c'était vrai ce qu'il disait hein, par rapport à ce sacrificateur-là. Et par contre, non plus, on ne voit pas une réaction de ce sacrificateur qui connaissait quand même la loi. Il n'y avait pas une réaction comme de ce sacrificateur et dire « Ah, Paul, c'est vrai, tu as raison, j'ai mal agi en voulant te frapper. » Il n'y a aucune réaction. Et sans le savoir, les paroles de l'apôtre Paul furent de nature prophétique, savez-vous, parce qu'on voit aussi dans les écrits des pères de l'Église, dans le premier siècle de l'Église, qu'on voit que c'est Ananias fut assassiné quelques années plus tard, selon les historiens du premier siècle. Donc, Dieu frappa ce sacrificateur. Ce n'est pas Paul qui l'avait fait, c'est Dieu qui a fait justice. Donc la justice appartient à Dieu. Et donc Paul, sans le savoir peut-être, a proféré des mots un peu prophétiques envers Ananias. Donc jusqu'à maintenant, on a vu en ce qui concerne le témoignage de Paul et il fait part aux Juifs de la façon comment il s'est conduit. Et il leur dit, puis le juif réagit de cette façon. Qu'est-ce que Paul cherchait en voulant dire ça? Peut-être chercher sa liberté, qu'il soit libéré, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, dans le verset 6 à 9, on voit quand même une stratégie que Paul utilise. Et qu'il savait qui étaient les pharisiens, il savait à quoi ils croyaient, il savait qui étaient les sadduciens, il savait à quoi ils croyaient aussi. Donc il mentionne quelque chose, et en plus, c'est clairement parce que Paul se déclare pharisien. Et en ce qui concerne son espérance, et en ce qui concerne l'espérance, donc sachant l'assemblée composée en partie des sadduciens et en partie des pharisiens, il s'écrit, il dit, pharisien qui l'ait mis en cause l'espérance, à cause de ça, à cause de l'espérance et de la résurrection, et Paul est mis en prison, est accusé. Donc la résurrection de Jésus-Christ est au cœur même du christianisme. C'est Paul qui nous écrit dans 1 Corinthiens 15 tout un passage en ce qui concerne la résurrection. Et Paul affirme ici que toute la question tourne autour du fait qu'il croit. Il proclame cette vérité, cette espérance qu'il a, et cette espérance de la résurrection. Une discussion en résulte entre les deux parties, et des scribes proclament Paul innocent et émettent la supposition que peut-être il a vu une révélation. On ne sait pas qu'est-ce qui ça a été dit dans toute cette réunion devant le Sanhédrin. Peut-être Paul a encore donné. A fait part de son témoignage comme quoi Jésus lui est apparu et c'est pour ça peut-être les pharisiens mentionnent ça et donc il dit peut-être il a une révélation donc il considère comme quoi il est innocent donc on l'a et à cause de ça il y a une dispute parce que les sadduciens ne croyaient pas ça donc il y a toute une émeute et il allait en croissant donc la vie de Paul était encore en danger. Et les tribuns fait chercher pour le ramener au lieu sûr. Il était bien davantage en danger au milieu des Juifs que dans une prison romaine. Donc, à ce moment-là, Paul est comme protégé. Au lieu d'être protégé par son peuple, il est protégé même par les autorités romaines parce qu'ils veulent encore le tuer. Mais il y a quelque chose quand même qu'on voit que... Et Paul a été déclaré par une partie du Sanhédrin comme innocent. Donc, en ce moment-là, et on va le voir, à partir de ce moment-là, on voit que l'apôtre Paul est comme protégé par les autorités juives. Et puis, il n'est pas en qualité peut-être de prisonnier, sinon de protégé, d'un témoin là, qui est protégé à cause des Juifs qui veulent le tuer. Même quand on va étudier la semaine prochaine, l'autre passage, on voit qu'il y a un guet-apens, ils veulent prendre un piège, Paul, pour le tuer même. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Et Paul encore est encore protégé. Et puis, il est envoyé à Césarée pour qu'il puisse être protégé ici, là-bas. Donc, Paul se demanda certainement quelle serait l'issue de toute cette situation. Et sa vie semblait suspendue d'un fil. Et trois tentatives déjà d'assassinat en deux jours. Et il avait besoin d'être rassuré. Et pourtant, frères et sœurs, Paul était en train de faire la volonté de Dieu. Il témoigne de sa foi, il témoigne de son espérance, et il témoigne de sa bonne conduite. Et je pense que nous, comme chrétiens aussi, des fois on est persécuté à cause de notre espérance. Nous sommes ridiculisés même à cause de la résurrection de Jésus. Et on est... des fois, à cause de notre conduite, en voulant faire la volonté de Dieu, on est critiqué. Et on ne s'explique pas pourquoi dans ce genre de persécution que nous avons, mais sachons que c'est dans la volonté de Dieu. S'afficher comme chrétien de nos jours, et comme on parlait la fois passée sur cette loi C6 qui veulent voter pour... que le droit, si on peut dire, des chrétiens puisse changer. Donc, on voit ces sociétés-là qui s'opposent à l'Évangile. Mais nous devons tenir ferme et nous devons savoir que c'est vraiment Dieu qui est avec nous. Et c'est vraiment, c'est lui qui si nous faisons la volonté de Dieu, et il va nous protéger. Mais on n'est pas libre, on n'est pas libre d'être persécuté. Et malheureusement, le message de l'Évangile, des fois, est affiché comme quoi, crois en Jésus, tu n'auras plus aucun problème, tu seras plus malade. Et donc, ce n'est pas vrai. Et on est même appelé à être persécuté à cause de notre foi. Mais nous lisons le dernier verset, dans le verset 11, et cette consolation que l'apôtre Paul a. Et il est peut-être découragé. Et oui, il est courageux de se présenter devant le peuple même. Et il est courageux de se présenter devant le Sanhédrin. Mais quand même, il cherche une réponse. Il cherche à savoir comment il va faire pour continuer ce qu'il a. Dieu avait mis dans son cœur, il y a quelques... quand on voit dans le chapitre 19, de vouloir aller à Jérusalem et de vouloir aller à Rome. Et donc, on voit que Jésus même le rassure. Et puis là, ici, on voit clairement la volonté de Jésus dans la vie de l'apôtre Paul. Donc, on voit encore plus d'éclaircissements et on va le voir après aussi de la façon comment l'apôtre Paul reçoit toutes les persécutions qui s'en viennent. Ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas encore fini. Ça commence, ça continue, si on peut dire, les persécutions. Il va témoigner devant des autorités, devant le roi Agrippa même, il va témoigner. Il va passer par un genre de naufrage aussi en s'en allant à Rome. Et il va passer 2 ans à Césarée encore. Et puis tout ça vers Rome. Et donc... il avait besoin vraiment d'être rassuré par Jésus. Et donc, on voit ici, la nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul, verset 11, et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage, oui, c'est vrai, qu'il était en train de défendre sa foi. » Mais Jésus ne mentionne pas ça, il dit, « Rendre témoignage. De la même façon que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » De la même façon... peut-être de la même façon, ça veut dire qu'il va comparaître devant des rois, devant des autorités, ou peut-être aussi de la même façon, dans son état maintenant, il est emprisonné. Et donc peut-être il est lié, il va être lié même. Et c'est ce qui arrive en fait après. Donc on voit peut-être que Paul comprend comment il va se rendre à Jérusalem. On voit dans les événements après qu'il même, des fois, il profite les occasions d'être emprisonné pour partager l'Évangile. Et donc, il en profite des occasions. Puis, on va le voir dans notre prochaine étude. Donc, l'accomplissement de son ancien désir dans le chapitre 19-21 est placé dès maintenant sous une forme de promesse par le même Seigneur Jésus. Donc, c'est d'ailleurs cette promesse remplie des grâces de Dieu qui soutiendra l'apôtre Paul en ce qui va suivre tout au long des nombreuses épreuves qu'il lui reste encore à traverser avant de se rendre à Rome. Pour finir, frères et sœurs, deux aspects importants maintenant pour notre témoignage comme chrétien, notre conduite. L'apôtre Paul même nous exhorte dans 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse, il dit à Timothée, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En réalité, la vie chrétienne, c'est une école de conduite. En réalité, c'est pour qu'on puisse apprendre à marcher avec Dieu. Des fois, on doit appliquer les freins. Des fois, on doit accélérer. Et un peu comme Paul, il dit, je suis dans la course encore, je ne suis pas parfait, mais je continue vers le prix. Et donc, que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle en parole, en conduite. En Pierre 2,12, il dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Encore là, sa visite, ça parle vraiment de notre espérance, de la résurrection, le fait qu'on va un jour voir notre Seigneur. Donc, on est juste des passages ici, donc et ce passage nous parle vraiment en ce qui concerne notre conduite, et selon notre témoignage, notre espérance aussi. En Pierre, en 21, dit, pour lui, par lui, vous croyez en Dieu, c'est-à-dire par Jésus, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, en lui, et qu'il a ressuscité entre les morts. Et en Jean 3, 2 à 3, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, qui ça, Jésus, sa deuxième venue, la résurrection, tous ces événements qui vont se dérouler lors de son deuxième retour, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Donc, ces passages aussi. Et oui, Paul a reçu la visite du Seigneur, mais nous avons entre nos mains ces passages qui nous parlent vraiment de l'espérance et que Jésus lui-même habite en nous. Il est avec nous dans nos épreuves à travers notre vie chrétienne. Et j'aimerais finir juste en mentionnant ce que Jésus a mentionné. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit dans Matthieu 28, 20, et voilà, je suis avec vous, toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à mon retour. C'est ce Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous, il est avec nous. En plus, il habite en nous et il nous aide à pouvoir discerner tout ce qui concerne sa volonté. Tant aussi longtemps, nous restons attachés à lui. Jean 15, il dit, parce que sans moi, Jésus même lui dit, parce que séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous rendons grâce à Dieu, parce qu'à cause de son esprit, nous pouvons être près de lui. Amen.
Merci, Ronald, pour ce message. Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, c'est notre Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons chanter. Hein? Quel beau nom porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel, Jésus parmi nous. Et le chant nous rappelle que, finalement, c'est notre désir en tant que chrétien, notre mission, notre mandat, que de faire connaître ce nom, comme Paul avait reçu le mandat de témoigner de Jésus jusqu'à Rome. Mais nous devons rendre témoignage de ce nom, de Jésus. Mais parfois, nous vivons des souffrances, comme Ronald le disait, des épreuves. Jésus n'a pas promis que nous allions avoir une mission sans obstacle. Au contraire, on rencontre des obstacles, mais c'est à travers ces épreuves-là que, justement, on manifeste le caractère d'un chrétien. Ça peut arriver qu'on est opprimé. Mais le quatrième verset dit, dans les maux, dans les malheurs, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Ça peut arriver. Notre âme, notre esprit est comme un papier qui a été froissé. C'est plus utilisable après. Là. Mais Jésus est capable de le rendre lisse. Il est capable de restaurer. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quand vraiment on n'a plus de courage, on se dit, je ne peux pas continuer d'être un chrétien dans ce monde de ténèbres, subir cette haine. Mais Jésus est là, puis il nous ranime, il redonne le courage, il nous guérit. Seigneur Dieu, veuille bénir ton peuple, lui donner le courage d'être une lumière dans ces ténèbres, le sel de la terre, d'avoir un bon témoignage auprès de tous ceux qui y croisent notre route, donne-nous d'être capable de défendre notre foi, mais surtout notre espérance d'être auprès de toi un jour. Remplis-nous de ta joie et de ta paix. Conduis ton Église, Seigneur, jusque dans les cieux. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.